La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Se rencontrer, se parler. Appel sur l'actualité est à Bamako. Roanne Gomez.
Bonjour à tous, merci de nous accueillir à Bamako, au Mali. Merci au public d'être venus très très nombreux pour participer à cette émission enregistrée vendredi dans l'amphithéâtre de la Faculté des sciences économiques et de gestion. D'ailleurs, je tiens dès maintenant, et on peut l'applaudir, à remercier Ousmane Pape Kanté, le doyen de la faculté. Merci à lui de nous accueillir aussi chaleureusement. Alors le public ce matin est essentiellement composé d'étudiants, et pour cause, nous sommes à la faculté. Et ce matin, je vous propose de dresser un état des lieux de la situation au Mali. Comment les jeunes perçoivent-ils la situation économique, politique, sécuritaire de leur pays? Vous qui êtes dans cet amphithéâtre, dites-nous quelles sont vos priorités, vos attentes, quel regard vous portez sur les principaux chantiers du second mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, réélu en août dernier. D'ailleurs, le président malien s'est engagé à faire de son second quinquennat celui de la jeunesse. Donc, votre quinquennat à vous, qui êtes ici présent ce matin. Merci encore. Alors, pour dialoguer avec vous, qui de mieux placé que deux membres du gouvernement, et pas les moindres? Merci de les accueillir. Amadou Koïta, bonjour.
Oui, bonjour.
Ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, vous êtes le porte-parole du gouvernement. À vos côtés, le ministre Salif Traoré. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, Gomez.
Merci d'être avec nous, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est un dialogue sans tabou que nous vous proposons ce matin. Les attentes économiques et sociales sont fortes. L'emploi et l'éducation font également partie des attentes, des priorités de la jeunesse, tout comme la question sécuritaire. Et on a un certain nombre d'étudiants qui souhaitent, messieurs les ministres, vous interpeller sur la situation sécuritaire. On va commencer avec Lou. Bonjour Lou.
Bonjour Juan.
Vous avez 24 ans.
Oui.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Mon intervention, ça concerne le volet sécuritaire. Je pense que l'un des grands chantiers de ce quinquennat que nous abordons, c'est la lutte contre le terrorisme. Et à mon avis, il faut une réelle coopération entre le G5 Sahel et l'armée malienne. Par les communications qu'on attend, on a tendance à dissocier ces deux entités-là, pensant que les missions ne sont pas les mêmes. Alors qu'en fait, ces deux entités ont la même mission, c'est-à-dire combattre le terrorisme. Donc, il est nécessaire, important, urgent que les populations comprennent un petit peu la mission.
Vous-même, Dou, comment vous vivez cette menace terroriste au quotidien? Vous sentez une certaine psychose ou finalement on s'est habitué d'une certaine façon à vivre avec cette menace?
C'est à l'heure de dire qu'on s'habitue au terrorisme. Personne ne se lève le matin en se disant « je vais peut-être perdre la vie au cours d'un attentat ». La psychose, elle est là, elle est réelle, elle est dans toutes les têtes. Et je pense que moi, personnellement, j'ai des expériences. Voilà, le premier attentat au Mali, à Bamako, c'était à la terrasse. Ce soir-là, j'étais censé y être. Heureusement, je ne suis pas allé.
Le restaurant, la terrasse, oui.
Voilà, et le danger, il est permanent et c'est partout.
Alors, on va laisser réagir les ministres, évidemment, à vos propos. Peut-être avec vous, d'abord, monsieur Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Qu'avez-vous envie de répondre à Dou?
Vous avez raison. Le G5 a été porté fortement par le Mali, quand le Mali était à la présidence. La force conjointe, certainement, dont vous parlez, a été conçue et lancée ici, à Bamako. Et cette force conjointe comprend les bataillons militaires des différents pays, les cinq pays qui composent le G5 Sahel. Je voudrais vous rappeler aussi qu'il y a eu déjà plusieurs opérations dans le fuseau centre. Ce que nous avons dans le fuseau centre, c'est la zone frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina. Donc la force conjointe commence déjà à avoir des résultats. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de dichotomie entre ce que les forces armées font et ce que le G5 Sahel, dans sa composante militaire, fait. Nous sommes en train de composer également la composante police de cette force militaire. Et jusque-là, ça se passe plutôt bien. Nous sommes en montée de puissance parce que nous sommes à la recherche d'un financement pérenne.
Oui, le financement, c'est le nerf de la guerre, effectivement. Et c'est essentiellement ce qu'il manque à cette force conjointe lancée il y a maintenant 2 ans. Amadou Koïta, porte-parole du gouvernement, la population, ou en tout cas les jeunes, et d'où en l'occurrence, à s'impatiente. À l'instant, le ministre Salif Traoré disait la force G5 monte en puissance. Et peut-être au sein de la population, on a le sentiment au contraire que ce sont peut-être les terroristes qui, eux, montent en puissance. Que répondez-vous ?
Je suis très ravi de voir que c'est un jeune qui s'intéresse à l'aspect sécuritaire de notre pays, puisque sans la sécurité, sans la stabilité, point de développement. Et dire que le président de la République, en consacrant, en dédiant son second mandat à la jeunesse malienne, il disait, je cite, lors de son investiture, « Jeune du Mali, je sais ce que je vous dois. » Je sais ce que ma génération vous doit. Je sais ce que ce pays vous doit. Je consacrerai le principal de notre effort à votre épanouissement en vous dotant des moyens nécessaires pour votre formation, pour votre émancipation. La lutte contre le terrorisme est un phénomène mondial. D'abord, nous saluons la montée en puissance des forces armées et de sécurité au Mali. Grâce au ministre Salif Traoré, nous avons aujourd'hui un programme de sécurisation intégrée dans les régions du centre. Et voyant les jeunes, ils sont les premiers acteurs, puisque la lutte contre le terrorisme n'est pas que militaire. Il faut l'implication de la population et surtout des jeunes.
Alors justement, vous me tendez une bonne perche, monsieur le ministre. Albert, bonjour.
Bonjour.
Vous souhaitiez aborder ce point-là, justement, la coopération de la population avec l'armée malienne pour lutter contre les terroristes.
Alors, moi, en fait, depuis un moment, nous avons remarqué une montée en puissance de l'ensemble des forces. Hein. Depuis qu'on est à Bamako, on est né ici et tout. On voit de nouvelles forces qui sont en train d'émerger, notamment la force SAT, qui est également la police et la BCI, qui viennent tous en appui à l'armée pour lutter toujours contre le terrorisme. Mais sachant bien que ces forces qui ont pour denrée l'information, et l'information, on ne peut l'acquérir qu'à travers la population malienne. Quelles sont les mesures qui ont été prises par nos différents corps de sécurité pour pouvoir quand même avoir l'information de la population? Et au-delà de ça, j'aimerais, ma seconde question tourne autour du point concernant la garantie de sécurité de ces gens qui donnent ces informations. Parce que très récemment, nous avons vu des descentes musclées de la police. On en était tous fiers parce que moi, personnellement, je n'ai jamais vu ma police réagir ainsi. C'était la toute première fois. Et j'aimerais que tout le monde applaudisse la police malienne parce que il y a un réveil. Maintenant, par ailleurs,
alors,
très rapidement,
oui.
Juste pour savoir, on a remarqué que parmi ces éléments de police, il y en a même qui se permettent de filmer ces différentes interventions. Pourriez-vous garantir la sécurité de ces gens qui décident de vous donner des informations? Nous, population malienne, oui. C'est ce qui nous inquiète.
Alors, qui veut, peut-être le ministre Salif Traoré, justement, d'abord sur le renseignement. Comment garantir aux populations que si elles collaborent, que si elles communiquent des informations à l'armée ou aux autorités, elles seront protégées?
Elles le seront. Et je voudrais profiter de cette occasion-là pour féliciter ceux qui ont le courage de nous informer, de nous dire à cet endroit-là, ça ne va pas, j'ai remarqué quelque chose. Voilà pourquoi nous avons mis en place une série de numéros verts. Ils sont anonymes. Vous ne payez pas et vous n'êtes pas obligé de décliner votre identité si vous avez peur. Mais il y en a qui nous appellent, qui nous disent « Je suis prêt à vous accompagner sur le terrain ». À ce moment-là, nous prenons toutes les garanties pour les protéger. Les opérations dont vous parlez, dans l'essentiel, les informations nous sont données par les populations. Je voudrais juste rectifier que c'est plutôt l'armée qui vient. Le rôle de l'armée, ce n'est pas d'être vu dans les centres urbains. Donc ce sont les forces de sécurité intérieure. Ce qui se passe à Bamako n'est pas seulement la police, c'est aussi la gendarmerie, la garde nationale.
Et on aura l'occasion d'en parler puisque effectivement on veut parler de la situation propre à Bamako. Monsieur le ministre Amadou Koïta, justement sur le renseignement de la population, vous en parliez tout à l'heure.
Oui, comme vous le savez, la loi fondamentale du Mali stipule que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Et la lutte contre le terrorisme est une lutte extrêmement difficile puisque nous avons un ennemi lâche qui souvent se dissimule dans la population. Voilà pourquoi le rôle de la population en matière de renseignement, puisque la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, c'est de renseigner les forces armées de sécurité qui ne sont là que pour cela. Donc voilà pourquoi j'insiste auprès de la population d'informer nos forces armées de sécurité pour qu'on aille dénicher ces terroristes partout où ils se trouvent, afin de les anéantir.
Messieurs les ministres, je vous présente Un étudiant, 28 ans, il s'appelle Fousseini. Bonjour Fousseini.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Vous souhaitiez continuer à parler de justement de la question sécuritaire.
Oui, en fait, l'aspect sécuritaire, comme Monsieur le ministre de la Jeunesse l'a dit, aucun développement ne peut se faire sans la sécurité. Mais un autre sentier qui est aussi très important, c'est par rapport à la révision constitutionnelle. Tout le monde sait que l'accord d'Alger a été signé et sa mise en œuvre est en train de causer énormément de problèmes par rapport aux engagements que les parties signataires se sont faits, que ce soit l'État et la CEMA.
Je rappelle aux auditeurs, pour ceux qui nous écoutent un peu partout à travers la planète, l'accord d'Alger a été signé il y a bientôt 4 ans entre le gouvernement et la coordination des mouvements de la Zawad pour justement parvenir à la paix.
Effectivement. Donc nous voyons que l'État s'apprête à procéder à cette révision. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que l'État a d'abord tiré les leçons de l'échec de la révision passée, alors qu'on s'apprête aussi à faire cette révision dans ce contexte sécuritaire-là, est-ce qu'on pourra garantir la participation de tous les Maliens à cette réforme-là?
Alors, on va vous répondre évidemment, Amadou Koïta. Je rappelle aux auditeurs qui ne sont pas maliens, qui entendent parler de l'accord d'Alger, signé donc il y a 4 ans. Cet accord prévoit une révision de la Constitution, notamment pour une plus grande décentralisation, une meilleure représentation des populations du Nord dans les institutions nationales. Où en sommes-nous dans ce projet de révision constitutionnelle qui passionne les Maliens?
Non, je voudrais tout simplement dire, dans la hiérarchie des normes, c'est l'accord qui doit s'adapter à la constitution malienne. Et c'est un accord pour la paix et la réconciliation. Ce n'est pas un accord de paix. Quand on dit un accord pour la paix, ça veut dire que c'est des actions qui doivent être menées pour parvenir à la paix. Il est d'accord avec moi que la paix n'a pas de prix, elle a un coût. Donc pour la paix, nous nous félicitons aujourd'hui, après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, tous les acteurs, les mouvements signataires aujourd'hui, il n'y a plus de belligérance entre le Mali et les mouvements signataires. Ces mouvements signataires sont aujourd'hui engagés pour la mise en œuvre de cet accord. La révision constitutionnelle, même sans l'accord, est une nécessité. Vous ne demandez aujourd'hui aucun homme politique, aucun acteur politique malien, aucun citoyen lambda, si cette révision est une nécessité. Elle est une nécessité pour adapter notre constitution à la réalité. Elle est une nécessité. C'est vrai, en 2017, nous avons été confrontés à des difficultés. Mais aujourd'hui, nous allons à cette révision constitutionnelle pour le Mali, pour renforcer la démocratie malienne, pour renforcer les institutions de la démocratie malienne. Et cela, ce n'est pas une question de personne. Il s'agit de notre pays. Et pour le pays, aucun sacrifice n'est et ne sera de trop.
Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ça veut dire qu'il y aura une révision constitutionnelle cette année 2019?
Je voudrais lui rassurer que nous avons tiré toutes les leçons de ce qui n'a pas marché en 2017. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a un nouveau comité qui est en place et qui est en train de bouger, qui rencontre tout le monde. Les instructions du président, c'est que cet exercice-là soit le plus inclusif possible. C'est pourquoi tous les partis politiques, toute la société civile de façon générale, sera impliquée, sera consultée, afin que nous puissions aller à cela.
Avec nous, dans cet amphithéâtre de la faculté de Bamako, évidemment, plus d'un millier d'étudiants que je salue une fois de plus et merci de votre présence ce matin. Merci. Et là, au premier rang avec le micro RFI, Aliou, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous avez 26 ans.
Oui.
Et vous avez la chance ce matin sur RFI de dialoguer avec deux membres du gouvernement. Nous vous écoutons.
Bonjour messieurs les ministres. J'ai un certain nombre de préoccupations qui touchent un petit peu à la stratégie du gouvernement pour la lutte contre la recrudescence des violences communautaires, si je peux appeler ça comme ça, entre guillemets. Notamment, on a vu avec la question de l'Azawad, qui est toujours d'actualité. Et en plus, aujourd'hui, on a la question Peul Dogon, qui est assez complexe, que beaucoup de gens ne comprennent pas, qui est donc enraciné dans une histoire. Oui. On ne va pas rentrer dans ces détails-là.
Il y a toujours eu des tensions entre les Peuls et les Dogons.
Oui, exactement.
Mais là, on ne parle plus de tensions, on parle de violences depuis 4 ans.
Exactement. Donc, les violences, à mon avis, sont venues parce qu'à un certain moment, l'État est absent. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement a une stratégie claire, précise, concise pour prévenir les actions de violence extrémistes et qui peuvent mettre le pays dans un chaos encore plus profond.
Alors, deuxième chose. Avant que les ministres s'expriment, juste pour être peut-être un peu caricatural, mais ça permet d'éclairer nos auditeurs à travers le monde. On disait qu'il y a toujours eu des tensions entre les Dogons et les Peuls. Là, on parle de violence. 500 morts l'année dernière, selon les Nations Unies. il y a des amalgames. C'est vrai qu'on a certains Dogons qui accusent les Peuls de proximité, voire même d'appartenance avec les terroristes. On a aussi certains Peuls qui reprochent aux Dogons d'aider l'armée malienne. Il y a tous ces amalgames qui accentuent finalement le fossé entre ces deux communautés. Qu'avez-vous envie de répondre, peut-être à Madou Koïta, porte-parole du gouvernement, à Aliou qui nous interpelle sur cette question des violences communautaires?
Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord dire que, vous l'aviez dit, il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame.
Bien sûr.
Il n'y a pas de problème Peul, il n'y a pas de problème Dogon. Vous ne trouverez aucun Peul au Mali qui n'a pas le sang Dogon, qui n'a pas le sang Bambara, qui n'a pas le sang Bozo. Vous ne trouverez aucun Bozo qui n'a pas le sang Peul. Nous avons toujours été un et indivisibles. Nous sommes une nation diverse. Cette diversité est une richesse. Nous sommes en train d'organiser un forum de réconciliation. Nous invitons d'ailleurs tous les leaders communautaires, les leaders Peul, les leaders Dogon, les leaders Bambara à se donner la main pour la cohésion, pour le vivre ensemble. Nous avons vécu ensemble il y a des années, des millénaires. L'ennemi, c'est le terroriste. L'ennemi cherche à nous diviser. Et l'ennemi cherche de mettre pour ce pays à genoux. Nous devons faire excessivement attention. Voilà pourquoi nous avons des aspects économiques que nous sommes en train de développer. Comment insérer les jeunes, qui sont souvent les proies faciles, s'ils se sentent stigmatisés, s'ils se sentent délaissés, deviennent facilement instrumentalisés, sinon pourront être instrumentalisés par ces terroristes. Nous avons des programmes pour insérer les jeunes dans les circuits sociaux professionnels, pour former les jeunes, pour faire en sorte que cette jeunesse soit une chance, un réel espoir pour notre pays. Et nous comptons sur cette jeunesse, car nous savons, même ces questions prouvent encore que cette question les tient à cœur.
Oui, Salif Traoré, ministre de la Sécurité, la solution n'est pas que militaire.
Non, je voudrais le rassurer que le gouvernement a une stratégie très claire. Nous avons un plan de sécurisation intégré des régions du centre où vous avez parlé de problème Peul, problème Dogon. Là, il y a évidemment une instrumentalisation et une exploitation terroriste pour mettre dos à dos des communautés qui ont toujours vécu ensemble. Il y avait quelques soucis dans le temps, ça a toujours existé, mais il y avait des mécanismes traditionnels qui permettaient de régler tout cela. Aujourd'hui, tous ces mécanismes-là sont mis à mal. Voilà pourquoi les mêmes individus qui sont là pour provoquer se mettent souvent de l'autre côté pour soi-disant défendre. Donc ça nous pose effectivement des problèmes. La stratégie et le plan de sécurisation intégré qui a différents volets, sécurité, développement, gouvernance et communication, la communication fait la place à tout le monde.
Alors, voilà. Je vous propose d'accueillir un dernier étudiant avant de rendre l'antenne à Paris et on reviendra évidemment après pour continuer ce dialogue sans tabou. Bonjour Ousmane.
Bonjour.
27 ans.
Oui.
On vous écoute.
Ok. Moi, ma question, c'est par rapport à la sécurité ici, dans les grandes villes. Nous savons que l'État est en train de déployer des efforts colossaux pour lutter contre le terrorisme. Mais ici, par exemple, à Bamako, on sent une certaine négligence, un délaissement par rapport à la sécurité. Par exemple, à partir de 23h, c'est vraiment risqué de sortir ici à moto. Moi-même, j'ai été victime de vol de moto à des reprises. Alors qu'est-ce que l'État est en train de faire pour sécuriser la population ici? Récemment, la police a fait une descente et on a vu les résultats. Mais quelle est la pérennité d'une telle initiative? Est-ce que la police serait toujours là à protéger la population?
Excellente question que vous posez au ministre de la Sécurité. Vous avez lancé récemment une opération anti-criminalité avec des centaines d'interpellations. Racontez-nous un tout petit peu comment vous avez procédé. Et la question de l'auditeur, quelle est la pérennité de cette opération?
Cette opération durera tant qu'il le faut. Nous avons beaucoup d'initiatives que nous sommes en train de développer. Les forces ont toujours été présentes dans les rues. C'est vrai que ces deux dernières semaines, nous avons mis en place une opération coup de poing. Et cette opération, au moment où je vous parle, des perquisitions sont en train d'être faites dans certains endroits, des descentes ont lieu dans certains endroits. Ça va continuer.
Et vous démantelez des gangs, des réseaux?
Mais bien sûr. Et justement, dans le concept de sécurité de proximité, c'est que ces jeunes qui sont là savent souvent là où sont les bandits. Mais pour différentes raisons, souvent, ont du mal à nous dire. Nous voulons faire tomber ces barrières-là pour que vous nous disiez où ils sont et que nous les traquions dans leur dernier retranchement. Et nous allons continuer cette opération tant qu'il le faut.
Merci, monsieur le ministre. On revient dans 10 minutes. On retrouve la rédaction à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on sera de retour, évidemment, ici, dans cet amphithéâtre où il y a beaucoup de monde, plus d'un millier de personnes, à la faculté des sciences économiques et de gestion. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.